France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle est Pénélope dans The Return, le retour d'Ulysse, film inspiré de l'Odyssée, évidemment, qui résonne avec notre monde. Juliette Binoche sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, place à la critique aujourd'hui. Littérature et métamorphose, en effet, avec deux romans. Vachette de Suzanne Duval chez POL et Rose immobile de Karine Serre aux éditions du Seuil. Vous écoutez les midis de culture et attachez vos ceintures. Et je vous présente les critiques du jour. Johan Farber, éditeur essayiste et critique littéraire.
Bonjour Marie.
Bonjour. Pierre Benetti, co-directeur éditorial du journal En attendant Nado. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, une femme se prend pour une vache. Enfin, une vachette précisément. Voilà le point de départ de Vachette, le troisième roman de Suzanne Duval. Un récit mi-réaliste, mi-fantastique où la grossesse bouscule le rapport au réel d'une future mère. Elle a des sabots et elle attend un veau. On imagine bien ce que cette irruption de l'absurde permet en termes de métaphores filées déjà et puis de langage. Il faut bien préciser que cette grossesse est désirée et que cette métamorphose n'est pas vraiment une malédiction. On commence avec quelques mots rapides avant de développer. Johan Farber.
Oui, alors moi j'ai été très agréablement surpris par ce récit qui, avec le résumé que vous venez d'en faire, en donne toute la saveur, à la fois fantastique, comique et puis aussi quelque peu distanciée et politique, c'est-à-dire cette femme qui devient une vache, on ne sait pas si elle le devient vraiment ou si à force que la métaphore insiste, elle parvient à le devenir. Et puis au-delà de ça, moi ce qui m'a vraiment séduit, c'est le questionnement politique sur la grossesse, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui ne transforme pas la littérature en outil idéologique, mais qui laisse la littérature dans ses ambiguïtés, et puis cette défense en fait aussi de la vache. Voilà, cette défense de la vache, de la nature. Voilà, donc vous voyez, premier avis qui n'est pas très vache, si j'ose dire.
Effectivement, Pierre Benetti.
Il y avait un gros risque dans ce livre, c'était d'en rester à une bonne idée de départ et un dispositif très malin qui va vers le jeu de langage et une sorte de variation comme ça très brillante. Et en fait, ce risque est complètement dépassé par la vivacité, la fantaisie. C'est un livre plus, j'ai envie de dire, fantaisiste que fantastique. J'ai été complètement émerveillé par la langue aussi qui est déployée dans ce livre. Vraiment, c'est une très belle réussite.
Allez, on va écouter d'abord quelques mots de Vachette de Suzanne Duval, lu par Oriane Delacroix.
C'était il y a longtemps. Je mangeais un sandwich à la Bibliothèque nationale de France. Un collègue s'assit en face de moi. Nous étions deux jeunes enseignants-chercheurs en littérature. Je lui demandais des nouvelles de sa femme. Il me répondit qu'elle devenait une grosse vache. Elle était enceinte depuis quelques mois. À cette époque, pour ma part, je n'avais rien d'une grosse ni d'une vache. J'étais un poids-plume. Peut-être même que j'étais une plume. Il est vrai que mes pieds étaient tout petits. Ils étaient comprimés dans des chaussures compensées. Mes jambes, mes cuisses étaient toutes petites. Je trouvais que mes cheveux n'étaient plus si soyeux qu'autrefois. Je n'avais plus 20 ans, ni même 25 ans déjà. Je n'en avais pas non plus 30.
Vachette de Suzanne Duval, et je corrige d'ailleurs, c'est bien chez Alma que c'est paru. Johan Farber, on l'entend, c'est des phrases toutes simples, extrêmement tenues.
Oui, c'est des phrases toutes simples, extrêmement tenues et paradoxalement extrêmement minimales pour, on va dire, une sorte de maximalisme de la métaphore, puisque, comme on le rappelait à l'instant et comme on l'entend, tout démarre sur une remarque misogyne. Ma femme est enceinte, c'est une grosse vache. Et à partir de là, l'héroïne absorbe la métaphore quand, à son tour, elle tombe enceinte. Et, comme on l'a dit à l'instant, se dresse en fait progressivement une fable qui peut être fantastique. Au début, on pense « Ah tiens, ça va être truisme bis de Marie Darrieussecq » et pas du tout. Il y a une sorte d'emballement joyeux du récit, fantaisiste, comme l'a très bien dit Pierre Benetti à l'instant, qui progressivement installe une manière d'interroger la grossesse en sortant de ce que peut être un récit sur la grossesse, à savoir un récit fondé sur le naturalisme ou un récit fondé sur l'observation médicale. C'est pas le premier récit de Suzanne Duval sur la grossesse. Elle avait auparavant dans Ta grossesse, son deuxième livre, interrogé la grossesse, mais justement sous le jour de l'avortement. Et le récit était, enfin, je vais le dire un peu vite parce qu'on va pas rentrer dans le détail, mais il était plus naturaliste ou en tout cas plus dans l'observation médicale. Ici, c'est le contre-pied total et on s'aperçoit que cette métaphore, elle est en fait extrêmement productive parce que elle permet d'interroger qu'est-ce qu'une grossesse pour le corps féminin. Et cette grossesse pour le corps féminin, elle est en fait posée comme question et jamais résolue. À savoir qu'il y a effectivement tous les désagréments, puisque ça commence par la nausée. Hein, la narratrice le dit, elle a lu Sartre et elle se dit, bah tiens, au lieu d'écrire la nausée, je vais écrire les nausées. Et donc ça commence un petit peu joyeusement comme une réécriture de Sartre, de l'existentialisme. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui la dépasse et qui est ce qui propulse aussi l'écriture et la métaphore, à savoir une joie à être enceinte, qui ne va pas sans des désagréments. Et le livre ne tranche pas. Il ne tranche pas et c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le récit redonne à la littérature sa possibilité d'interroger politiquement sans apporter de réponse ferme et de nous questionner. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que, d'un côté, la grossesse, il y a un discours féministe très juste sur l'oppression du corps des femmes, le patriarcat, qui pousse effectivement à retenir le ventre des femmes comme un organe uniquement reproducteur. Allez hop, à la chaîne, on y va. Donc c'est l'usine à marmots. Et la deuxième chose, c'est qu'elle, elle dit, bah finalement, le corps d'une femme, même enceinte, n'est pas réductible à la grossesse. Et donc elle montre des moments de sensualité, puisqu'on est dans un emballement métaphorique où son fiancé est rebaptisé Torino, où elle va avoir un spectacle de Florence Foresti qui devient Vachette Foresti, où elle se fait accoucher par des vaches-femmes. Voilà, donc il y a vraiment... cet emballement produit en fait une certaine joie et j'ai trouvé que c'était vraiment la grande force du texte.
Alors Pierre Benetti, il y a quand même de la littérature, c'était le piège, hein. Elle pouvait s'effacer.
Il n'y a même que de la littérature parce que c'est un livre qui réfléchit beaucoup son propre geste mais sans en faire un roman qui réfléchirait à la construction des romans, etc. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle part d'un dispositif qui va jouer avec le langage et même intensifier la charge les possibles de tout le langage, de tout le lexique bovin, et c'est encore plus drôle dans la langue française évidemment parce que la vache est aussi un motif national, enfin c'est pas un coq mais on y est presque. Disons que Suzanne Duval, qui est en plus à la fois c'est le nom de la narratrice, c'est le nom aussi de l'autrice qui est chercheuse en littérature, qui travaille sur la littérature du XVIIe siècle et d'ailleurs qui réactive au passage toute une mémoire littéraire oubliée, hein, de la langue française, Honoré d'Urfé, Antoine Duverdier, qui sont pas vraiment des auteurs qu'on lit, elle va tirer dans la littérature, cette littérature ancienne, toute une panoplie de formulations. Par exemple, je suis tombé sur un « il me souvint que », qu'on raconte pas beaucoup dans la littérature contemporaine, et qui est très beau, qui est pas du tout désuet. Elle va aller chercher à la fois la force de la langue, et puis en même temps un humour, une fantaisie, un merveilleux. Donc vraiment, il y a un monde comme ça, imaginaire, qui s'ouvre, et c'est d'autant plus littéraire qu'en effet, on ne sait jamais si, comme vous l'avez dit, elle se prend, cette narratrice, pour une vachette, ou si elle l'est vraiment devenue dans le monde qui l'entoure, parce que tout le monde s'y fait en fait. C'est-à-dire que Torino, son compagnon, est complètement ok avec ça. Il y a plus du tout de séparation entre le monde imaginaire qu'elle s'est créé et la réalité de sa grossesse. Et ça a une force en effet politique parce que ça retourne le stigmate avec sarcasme. Moi, j'ai été assez fasciné par le sarcasme, le regard un peu fantasque qu'a cette narratrice sur les personnes qui commentent sa grossesse, y compris son psychanalyste, hein, qui meugle, à vrai dire. Et donc, c'est par l'humour que le stigmate misogyne est retourné, et c'est bien plus fort que si c'était un discours naturaliste ou une réflexion sur l'expérience de la grossesse.
Johan Fabre, il y a une joie à être vache, en fait.
Il y a une joie à être vache, et en fait, ce qui est vraiment très frappant, c'est que le livre a de multiples entrées, c'est-à-dire que la grossesse lui permet aussi de parler de la femme en tant que mammifère. Et la femme en tant que mammifère, elle correspond absolument pour elle à la vache parce qu'elle trouve qu'elles ont un point commun, même trois points communs, c'est que la vache est banale, la vache est sacrée et la vache est opprimée. Et à partir de là, elle tisse cette réflexion pour proposer ce qu'on pourrait appeler une sorte de fable éco-poétique, c'est-à-dire un éloge constant du vivant et des sensations. Parce que la femme enceinte pendant sa grossesse, en tout cas la grossesse de Vachette Duval, un regain de sensations comme elle n'en a jamais éprouvé auparavant. Et à partir de là, elle se questionne sur mais est-ce que finalement la femme et l'homme ont une centralité dans le vivant ? Mm-hmm. Et ça l'amène à relativiser totalement la place de l'homme et de la femme et du petit veau dont elle finit par accoucher. Et à partir de là, cette fable écopoétique revient en fait à un questionnement très simple sur une politique du vivant. Et j'ai trouvé que c'était singulièrement...
Comment elle fait cette bascule, hein ?
Elle fait cette bascule dans cette espèce d'emballement métaphorique constant où finalement ce roman de la sensation permet véritablement de dire, bah, par exemple Vachette, elle sent un certain mépris quand même. Voilà, elle sent un certain mépris. Elle sent aussi une certaine indifférence puisque, comme le rappelait Pierre à l'instant, bah, son fiancé sont très très bien accordés. Et puis il y a quand même une sorte de sacralisation de la femme enceinte qui, évidemment, est toujours, je dirais, couplée à l'attirail patriarcal, c'est-à-dire on respecte la femme enceinte, mais enfin on n'arrête pas de la mettre enceinte pour qu'elle ne puisse pas vivre l'existence qu'elle souhaiterait. Voilà. Et donc, à partir de là, elle voit que vraiment l'animal ne doit pas être rejeté, et à la fin du livre, elle n'est même plus une vache, elle devient autre chose.
Je ne dis pas.
Je suspecte, elle devient autre chose pour montrer cette multiplicité du vivant auquel accède la femme enceinte.
Tout ça en restant avec cette fantaisie dont vous parliez, cet humour et cette distance qu'évoquait Johann Farber.
Mais tout ça se passe, il me semble, on dirait que c'est y a l'utilisation du motif de la grossesse au bénéfice du langage, au bénéfice d'une sorte de vraiment de je sais pas de d'intensification des moyens dont on dispose pour disons déployer un imaginaire qui est singulier, qui est celui de cette narratrice là et qui ne fait pas des femmes un collectif disons qui aurait une expérience partageable et disons qui est la même pour toutes. Non, absolument pas, c'est une expérience qui retrouve sa singularité. Et il y avait un risque, hein, c'était moi j'ai eu peur au bout du premier tiers du livre, qui est un risque de la stagnation. C'est-à-dire que le livre prend la forme d'une chronique, hein, de grossesse, c'est-à-dire du moment de l'annonce du début de la grossesse au premier jour du nourrisson, et on passe par toutes les étapes, les échographies, les exercices, les nausées, etc. Et j'ai eu très très peur de me dire, ok, romanesquement, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que à part les réactions des autres à sa transformation, même si on reste du côté de la métaphore, qu'est-ce qui peut se passer ? Et finalement, là où il se passe énormément de choses, c'est dans les associations d'idées, dans la rêverie qui est ouverte par cette possibilité d'être Vachette et de ne plus être, justement. Être Vachette, c'est aussi ne plus être femme assignée à un rôle dans le monde des humains. Donc c'est en ça que c'est très littéraire. J'ai été très touché en fait que ce sujet-là, qui est très sociétal, finalement, permette à la littérature de revenir en force pour nous en parler.
Johann Farber ?
Oui, et puis il y a quelque chose qui revient et qui est questionné, qui est vraiment une question littéraire ou un thème littéraire qu'on entend souvent, c'est la question du monstre. Est-ce que la femme enceinte est monstrueuse ? Et est-ce que... lorsqu'elle devient vache, est-ce qu'elle n'est pas une sorte d'hypermonstre ? Et je trouvais que la manière dont c'était traité, avec beaucoup de tendresse, de concision aussi, on a évoqué au début ces phrases très courtes, hein, il y a vraiment une énergie à poser aussi des situations et à finalement essayer de dresser un portrait véritablement qui ne ressemble à rien d'autre dans la littérature contemporaine, faut quand même le dire.
Et puis ça donne envie de lire Amadis de Gaulle, et c'est pas tous les jours.
De lire qui, pardon ?
Amadis de Gaulle, donc grand auteur avec les 13 tomes du roman des romans. J'ai vraiment eu envie de m'y plonger grâce à Suzanne Duval.
Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que effectivement elle ne vient pas du tout de cet univers-là. Suzanne Duval, vous l'avez dit, hein, elle a fait une thèse en stylistique historique sur la prose poétique du roman baroque.
Exactement.
Voilà.
Oui, mais le baroque avait justement cette propension, notamment chez Saint-Amand, merveilleux, où les poissons volaient
aussi.
Et les oiseaux nageaient. Et cette manière aussi d'avoir un bestiaire, c'est vraiment aussi quand même un héritage de cette littérature baroque qui, effectivement, était prompte à mettre en avant les métamorphoses. La métamorphose, c'est une question vraiment baroque qui la retrouve, en fait, son plein essor.
Vachette de Suzanne Duval.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et voici une nouvelle histoire de métamorphose, encore une mère d'ailleurs, mais celle-ci a deux enfants et un mari, et un matin, à la table du petit déjeuner, prise d'un vertige et d'une grande fatigue, Rose ferme les yeux. Cette pause qui ne devait durer qu'un instant va s'éterniser, s'installer des jours, des semaines. Rose entend ce qui se passe autour d'elle, mais peu à peu, c'est surtout ce qui se passe en elle qu'elle va écouter, jusqu'à ce que son état évolue encore vers quelque chose d'étrangement organique. Rose immobile est le quatrième roman de Karine Serre, par ailleurs metteuse en scène, autrice de théâtre et de littérature jeunesse. On commence par un avis rapide, Pierre Benetti.
Alors j'ai été assez saisi par le principe du livre. D'ailleurs c'est étonnant qu'on parle de deux livres qui partent d'une idée, enfin une idée narrative, et on voit ce qu'elle donne. Alors là ça part très très bien, mais ça part sur un principe assez dangereux puisque tout le livre va être du point de vue d'une femme réduite à sa passivité. C'est-à-dire que tout le monde la regarde, la touche, passe à côté d'elle sans la remarquer. Elle est devenue complètement
un meuble,
un être dans le décor. Alors, je trouve que c'est très intéressant du point de vue, disons, de ce qu'on peut faire narrativement, de comment il y a une rupture dans la quotidienneté du domicile, du foyer hétérosexuel, normal, normalisé. En revanche, en termes de roman, je suis resté un petit peu sur ma faim, il faut dire, parce que finalement le roman reste à l'image de cette narratrice. Je n'arrive pas à suivre simplement cette passivité là. À mon sens, elle n'est pas assez remplie justement de langage ou d'une expérience forte en termes de langage.
Johan Farber.
Ben moi, je dirais que on est face effectivement après la faune qu'on a explorée. Là, on a à la flore qui est donnée dès le titre, Rose immobile, qui est le prénom de l'héroïne Rose. Et là, pour moi, c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup séduit parce que j'ai trouvé que la question du conte fantastique permettait en fait d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que est-ce que c'était pas une allégorie plutôt sur le burn-out de la mère de famille, et est-ce que finalement on n'était pas face à ce qu'on pourrait appeler une littérature lente, c'est-à-dire une littérature qui décélère, et en fait qui effectivement, Pierre Benetti l'a bien dit à l'instant, une littérature qui évite justement de sombrer dans l'accélérationnisme ambiant et qui se fait un pas de côté parce que c'est une écriture, on va y revenir, extrêmement hypersensible, extrêmement attentive à ce qu'elle appelle les micro-bruits, les micro-mondes, c'est-à-dire à une sorte d'infra-sensibilité qui laisse en fait... une héroïne qui, comme précédemment, comme chez Vachette Duval, est une héroïne qui, justement, se met à l'écoute de ce qu'elle ne peut pas écouter autrement. Et à partir de là, se dresse, là encore, il y a beaucoup de similitudes entre les deux récits, même si les deux voies, finalement, narratives sont assez opposées. On se trouve face à une nouvelle fois à une sorte de fable éco-poétique et même éco-féministe.
Alors, on va écouter un passage de ce Rose immobile. Il est lu par Anaïs Isbert.
C'est un samedi matin dans la cuisine. Les garçons parlent et rient. Leurs cheveux roux sont ébouriffés. Ils se balancent sur leurs chaises pendant que Will fait griller des toasts. Et soudain, je manque d'air. Je me sens oppressée. Mon cœur bat de façon irrégulière. La cuisine vacille. Une tache de soleil sur le mur m'éblouit. J'ai envie de fermer les yeux. La journée vient à peine de commencer. Mais mon cœur bat trop fort. Mes paupières sont lourdes. Je respire mal. J'ai peur de m'évanouir. Et je cède. Les garçons et leur père continuent de rire, de mâcher, de claquer leur bol sur le formica. Puis Will chuchote. Chut! Maman dort. Venez, faut pas la réveiller.
Voilà, c'était la première page de Rose immobile, le livre je vais y arriver, je suis fatiguée, Karine Serre, quatrième roman de Karine Serre, Pierre Benetti.
Oui, et en plus des romans, elle a écrit du théâtre et des livres pour la jeunesse, et Karine Serre manie vraiment l'art du conte avec talent, ici, ça c'est sûr, il y a un vrai plaisir du conte, notamment dans l'entrée dans un espace merveilleux qui rompt le quotidien dans une langue très très précise, qui s'empare, ça c'est assez fort, qui s'empare du monde matériel et qui le décompose, c'est-à-dire que l'appartement, la cuisine et ensuite chaque élément de la cuisine où cette narratrice s'est endormie après la fin du petit déjeuner, devient vraiment, tout cela devient un espace extrêmement étrange ou étrangéifié. Avec un début très kafkaïen qui pourrait se résumer un matin Rose ne s'est pas relevée après le petit déjeuner quoi. Alors d'ailleurs peut-être que la narration à la troisième personne aurait mis un peu plus de d'étrangeté encore plus hein, je pense que le choix assez étonnant de le mettre au jeu mais passons. Et le conte va prendre une dimension de satire sociale sur la charge mentale en fait des femmes et des épouses qui fonctionne à plein parce que d'une certaine quand on voit Will donc le compagnon incapable de se débrouiller sans son épouse, les enfants complètement s'habituer à son absence, ça marche très très fort. Il y a un humour sous-jacent dans cette narration qui marche très très bien. Et la situation de Rose immobile va devenir un observatoire, j'ai eu l'impression, du monde où elle vivait jusque-là. Et d'une certaine manière, du monde possible, d'un monde de sensations, d'un monde où on est bien plus active dans son regard et dans sa perception que dans toutes les tâches matérielles qui incombent à cette personne.
Yann Ferber ?
Oui, effectivement, c'est en fait ça démarre, on se dit ça va être une tragédie puisqu'elle le dit, elle ne peut pas bouger, elle est prisonnière de son corps, elle voit les autres ses deux enfants passer et son mari.
Et on l'a dit catatonique en fait,
c'est ça. Elle est effectivement c'est le bilan médical, le médecin qui vient la voir quelques jours après en conclut à une catatonie, un état catatonique et qu'est-ce qui se passe ? On pourrait croire que ça va être une tragédie et d'un seul coup, elle le dit très clairement, mais en fait, je suis dans une paix intérieure. Je suis totalement apaisée enfin. Et tout se passe très très bien. Pour moi, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Évidemment, quand même, le malheur qu'elle a, c'est de ne plus pouvoir communiquer ni avec son mari, ni avec ses deux enfants, ni le reste de sa famille. Mais sinon, en elle-même, elle découvre effectivement une puissance de perception qui va totalement retourner cette tragédie de la catatonie en une espèce de force positive, positive, vitale, dans laquelle elle va se mettre à explorer tout ce qui fait le vivant. Elle le dit, tous mes sens commencent à se développer, mon ouïe se développe et je découvre ce que je n'avais pas vu, c'est-à-dire des micro-mondes. Et pour moi, ça rejoint vraiment un point essentiel de la littérature contemporaine, à savoir l'exploration de la matière dans tout ce qu'elle peut avoir d'infrasensible. Beaucoup de passages m'ont fait penser à une excellente romancière, Célia Oudard, qui publie depuis 2007 Les Merveilles du Monde, et qui s'intéresse à chaque fois au monde sensible, à la matière, et je dirais aux résidus atomiques qui échappent en fait à la vitesse des existences qui sont les nôtres, et qui finalement instrumentalisent plus l'existence dans une carrière qu'autre chose. Elle, justement, il y a peut-être une fable politique derrière, mais je dis bien peut-être parce que il n'y a pas de discours qui encadre et le texte trouve exactement comme dans Vachette sa force dans un rendu littéraire qui pose des questions sans jamais apporter de réponse et j'ai trouvé que vraiment c'était un texte très 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 étonnant et très prenant parce que quand même il y a une dynamique narrative, on se dit il se passe pas grand chose, voire rien, mais c'est en fait sa vie intérieure qui se développe et c'est un roman où il y a effectivement pas d'action, de toute façon ça a annoncé dès le titre, hein. C'est immobile, mais c'est en fait une mouvance, un mouvement qui se met en branle d'une conscience perceptive, hein. Elle n'est plus qu'une conscience, et elle le dit, que puis-je voir depuis ma meurtrière de chair, puisque effectivement son espace, elle va, je vais révéler le suspense, fusionner quasiment avec la chaise sur laquelle elle est assise, et bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est face à un texte qui propose une sorte de merveilleux, mais un peu désenchanté et, je dirais, assez critique.
Pierre Benetti ?
Je suis un peu plus dubitatif parce que, disons que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'entrée dans un espace merveilleux, ça marche évidemment, c'est l'entrée du conte. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on le tient ce conte ? Et à mon sens, il n'est pas totalement tenu pour une simple et bonne raison, c'est que cette hyper-perception qui s'ouvre dans l'arrêt général que vit cette femme, à mon sens, cette hyper-perception-là, cette capacité à tout voir, elle n'est pas transmise assez fortement au lecteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transposition littéraire, langagière de cette hyper-perception. Il n'y a pas de monde sensible qui passe par un langage littéraire, par la forme littéraire. Disons que ça reste une succession d'observations sur ce que les autres font, sur ce que les gens disent, sur le passage d'une amie. La seule péripétie qui va se passer, c'est un passage à l'hôpital. Et il m'a manqué quelque chose. C'est-à-dire que j'aurais aimé ressentir, moi, en tant que lecteur, cette expérience-là. Comment un monde devient, disons, plus visible, plus vivable. Je sais pas si Johan, vous avez ressenti ça. Moi, je l'ai pas ressenti. Et d'autant que la situation est quand même cocasse et assez loufoque. Et Karine Serre ne s'empare pas, en fait, à mon sens, de cette loufoquerie. Voire elle tire le récit vers de la cruauté. Parfois, moi, j'ai été assez... Alors, il y a quelque chose de cruel que j'ai ressenti dans la position de cette femme qui est trimballée à travers la ville, où on la met un peu n'importe où au fur et à mesure, on parle d'elle, etc. Parce que la chose un petit peu particulière, c'est qu'elle a beau être en arrêt ou je sais pas comment dire, profondément endormie, elle entend tout, elle sait tout, elle sait ce qui se passe pour les autres. Alors ça, il y a un peu un non-choix, c'est-à-dire que dire qu'un personnage n'est plus là et en même temps il est hyper là. J'ai eu l'impression que c'était pas décidé, voilà, que quelque chose n'était pas totalement décidé dans la forme du roman.
Johan Farber.
Ben moi je crois que je sais pas si c'est pas décidé, mais en tout cas il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'elle confie intégralement la puissance du récit à ce qui se passe à son personnage, ce qui se passe pour son personnage, pardon. Et effectivement le texte ne propose pas de forme, je dirais, originale, mais tient justement à œuvrer à partir, je crois, moi, vraiment, d'une sorte de rendu perceptif qui fait parfois quand même, je trouve, de certains passages des poèmes en prose, à savoir vraiment une attention poétique aux détails.
Hein. Et quel détail, par exemple ? J'aimerais bien comprendre. Parce qu'elle est dans sa cuisine, j'ai du mal à imaginer qu'elle...
Parce qu'en fait, elle n'est pas que dans sa cuisine. Elle sort à un moment de sa cuisine et elle est emmenée, comme Pierre Benetti l'a indiqué, prendre l'air au parc. Et à partir de là, elle redécouvre finalement le vivant d'une autre manière, puisque finalement... elle va devenir elle-même son prénom. C'est-à-dire qu'elle va rejoindre un devenir végétal. Et à partir de là, c'est une sensibilité accrue qui est, je dirais, au cœur de ce texte, comme si finalement elle arrivait à faire monde. Il y a quelque chose, j'ai évoqué tout à l'heure Célia Oudard, mais ça me faisait beaucoup penser aussi à la poésie de Stéphane Bouquet et à cette manière dont, finalement, il a pu dire dans son dernier recueil, tout se tient. Et finalement, elle voit qu'un monde existe, que tout se tient et que la nature, finalement, c'est un peu holiste. Hein. Voilà, elle forme un tout avec cette nature et que sa vie familiale l'a empêchée d'avoir l'existence d'une plante en pot.
Un tout petit dernier mot.
À ceci près, quoi, à la toute fin du roman, on retrouve la vie familiale et finalement, ce qui compte, c'est l'amour des siens. Il y a quand même un retour au foyer qui m'a un petit peu étonné. Voilà.
Merci beaucoup, merci Pierre Benetti, merci Johan Farber. Donc, je vais tout redonner dans l'ordre parce que je me suis trompée tout au long de l'émission. Nous parlions de Rose Immobile qui est publié chez Alma. Et puis nous parlions de Vachette de Suzanne Duval. Et là, c'est chez POL. Toutes les informations, quoi qu'il arrive, sont sur la page des Midi de Culture. Et vous qui nous écoutez maintenant, eh bien, c'est à vous de vous faire une idée. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie.